Bonsoir, vous êtes dans Salon Privé, vous êtes sur Fusion. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Elle est sénatrice de Martinique, la première femme sénatrice de Martinique. Elle l'est depuis septembre 2017. Conseillère territoriale depuis 2015, elle est cadre du Parti progressiste martiniquais. Son franc-parler fait qu'elle ne laisse personne indifférent.
Catherine Conconne a une vie politique très riche. Elle a été conseillère générale, conseillère régionale, première vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire de Fort-de-France, et depuis son élection au Sénat, ses positions et ses déclarations n'ont eu de cesse de la mettre en lumière. Notre sénatrice a accepté notre invitation et nous lui avons ouvert ce soir les portes de notre salon privé. Nous en profiterons pour en savoir plus sur le personnage, un peu de sa vie, un peu de son activité politique, de ses goûts et de ses passions.
Catherine Conconne, bonsoir.
Bonsoir Ignace et merci de ton invitation et je salue l'ensemble des auditeurs de Fusion.
Alors Catherine, nous allons d'abord nous tutoyer
parce
que
plaisir.
Nous nous sommes depuis longtemps.
Bien sûr.
Alors, une enfance foyalaise ?
Absolument, oui. Foyalaise, de parents qui ont toujours vécu à Fort-de-France. Mon père, originaire de Tivoli, ma mère a beaucoup vécu dans le centre-ville depuis qu'elle était gamine, Louis-François Arago. Donc, j'ai une vie foyalaise avec un grand-père qui a été conseiller municipal d'Aimé Césaire, de sa première mandature en 1945. Donc, une vie très foyalaise qui ne m'empêche pas de bien connaître la Martinique.
Un environnement familial où on a beaucoup parlé politique, je suppose.
Absolument. Chez moi, c'était ça, la religion. On ne parlait pas beaucoup de religion catholique, etc. Mais la religion, c'était la politique. Comme je vous dis, j'ai un grand-père qui a été aux côtés d'Aimé Césaire depuis 1945. Il l'a suivi quand il a quitté le Parti communiste. Ensuite, ma mère est devenue également dans les années 80 conseillère municipale, toujours avec Aimé Césaire. Et puis, depuis que je suis gamine, eh bien, mon quotidien est perlé de la vie politique, les grands meetings, les réunions, aller voler le journal du PPM, participer à la fête du PPM.
Militante, quoi.
Oui, militante très jeune. Bon, quand on est très, très jeune, on n'est pas encore très, très conscient de ce qu'on fait. Et puis après, la conscience arrive petit à petit. Quand vous êtes bercé dans ce milieu-là, il y a des choses qui vous rentrent dans la tête et dont vous devenez parfaitement conscient, qui guident votre vie. Et vraiment, je ne regrette pas.
Et c'est là que commence vraiment l'engagement.
Oui. Oui, alors l'engagement était déjà là. Hein. Je fréquentais depuis longtemps les arcanes du PPM, depuis gamine. Et puis en 2000, quand Serge Tchimi a commencé sa campagne pour les municipales, donc j'ai été à ses côtés. Peut-être que le temps était venu, que je m'implique directement. Et c'est comme ça que je suis devenue donc maire adjoint, cinquième maire adjoint sur sa liste en charge de la sécurité. Et puis en 2004, quand il a renoncé à son poste de conseiller général sur le 6e canton, Dillon, Volga, Haut-Découpé, etc., au canton, 17 000 habitants, donc j'ai assuré la relève jusqu'à ce que nous soyons élus à la région en 2010. Voilà.
Une première élection en son nom propre, ça fait quoi ?
Mais c'est la deuxième, puisque j'ai été également conseillère générale en 2004. À l'époque, on n'avait même pas encore de suppléant, donc c'était une élection personnelle. J'ai été élue dès le premier tour, pourtant dans un canton qui n'était pas mon canton d'origine. Hein. Je suis des hauteurs de Fort-de-France, Tivoli. Et là, moi, j'ai eu un contact facile avec le peuple. Donc, ça a été très, très vite et très simple avec les habitants de ces quartiers qui sont des quartiers populaires. Hein. J'ai l'habitude de dire, c'est pas un endroit où on trouve de belles villas cossues. Donc, j'ai eu un contact facile avec les gens. Donc, j'ai été aisément adoptée par eux. Et mon élection a été relativement facile, on va dire ça comme ça. J'ai été après presque élu en 2007, puisque j'ai tenté des législatives à la demande de mon parti. Et il m'a manqué environ 900 voix pour être élu également, à l'époque face à Alfred Almon, voilà, comme député du Nord.
On s'impose facilement dans un parti comme, quand on est femme, dans un parti comme le BPM.
C'est pas simple, mais quel que soit le milieu, hein, pas seulement le BPM, qu'il s'agisse de politique, enfin, j'ai envie de dire que Il y a beaucoup de femmes qui sont visibles depuis longtemps au PPM. Césaire a eu des adjointes illustres hein, au PPM à qui il avait donné de très grosses responsabilités. J'ai toujours vu des femmes dans les campagnes électorales, encore plus impliquées que les hommes, prenant des risques, y compris physiques, pour monter au créneau quand les choses étaient très dures. Aujourd'hui, la politique, c'est gentil, c'est du coton aujourd'hui par rapport à ce qu'on vivait avant. J'ai toujours vu des femmes au combat. Alors, bon, c'est pas toujours évident, hein, parce que, bon, on vous dit parité, les femmes, bienvenue et tout, mais on sent très bien que.
Il y a des petites réticences.
Oui, il y a des petites réticences. J'ai même entendu des gens dire, moi, quand ils votaient bas, oh, parce que, au parti, mais c'est zéro, moi, c'est zéroiste, mais ça fait fort en politique, là. Moi, pas de gêne à quoi, et puis ça.
Ça évolue quand même.
Ça évolue, mais il y a encore des petites attitudes. Oui, ça. Bon, c'est culturel. Hein. On fait avec. On leur fait de grands sourires quand on constate ça.
Quels souvenirs t'ont laissé ces trois grands hommes du Parti progressiste qui ont été Césaire, Aliker et Darcière ?
D'immenses souvenirs. Alors, Césaire, c'est depuis que je suis. Les trois, hein, d'ailleurs, depuis que je suis gamine, du temps de mes souvenirs encore conscients. Aimé Césaire avait surnommé ma sœur et moi les mascottes du parti.
Carrément,
parce que nous étions très jeunes, toujours, et je le voyais venir chez mes parents, chez mes grands-parents, s'asseoir sur la véranda, discuter avec mon grand-père. Donc, c'est un personnage qui vraiment était très familier dans mon enfance, qui avait beaucoup de tendresse envers nous, en particulier ma sœur et moi, qui nous voyaient tout le temps, nous connaissaient, nous faisaient des bisous, me parlaient. C'est vraiment quelqu'un qui a partagé mon quotidien. Camille Darcière aussi. Parce qu'on a beau lui accrocher des défauts, que c'est un homme bourru et tout. Non, c'est une forte personnalité, c'est tant mieux. Mais c'est quelqu'un d'une tendresse et d'une gentillesse infinie. Quelqu'un qui encourage énormément la jeunesse. Il n'y a pas une fois où je passe à la radio dans mes tout débuts, pas très rassurée et tout. Le premier appel téléphonique que je recevais, c'était Camille qui me disait « Très bien !» Il m'avait surnommé « Ticravache ».« Très bien, Ticravache, la prochaine fois, tu rajoutes juste ça. La telle date que tu avais dit, c'était pas tout à fait ça. Tu vas corriger la prochaine fois. » Vraiment quelqu'un qui encourage énormément. Et j'ai toujours admiré chez cet homme cette loyauté, cette fidélité. C'est-à-dire, il prenait tous les coups qu'il fallait prendre parce que convaincu en loyauté qu'il était dans le bon chemin et qu'il avait des gens comme Aimé Césaire à protéger. Donc c'était une carapace face à ce parti. Il n'avait peur de rien et de personne. Et vraiment cette loyauté, cette fidélité qui sont des qualités extraordinaires que je trouve en politique, qu'on trouve de moins en moins. Aujourd'hui, vous avez un premier adjoint, ça se voit beaucoup. À peine il est élu, qu'il a envie de prendre la place du maire. Enfin bref, il y a toujours des petits moments de démission, des gens qui partent, qui ont envie d'être calife à la place du calife. Et de voir cet homme qui a été aux côtés de grands monsieur comme Aimé Césaire toute sa vie jusqu'à la fin, voir Césaire désolé le jour de sa mort complètement, pour lui, ça a été, voir Camille mourir, ça a été pour lui quelque chose de fantastique. Et puis Aliker, monsieur Aliker, l'homme de la droiture, du respect, de la fidélité. À l'époque, il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui. Quand Césaire partait à l'Assemblée nationale, il partait pour 6 mois. Il restait 6 mois en France, faisait la session entière et il avait carte blanche à Aliker pour gérer la mairie. Il n'y a jamais eu de couac, jamais eu de problème.
Confiance totale.
Voilà, moi je suis pétrie de ces valeurs-là. Je n'ai jamais la volonté de me mettre à la place de quelqu'un d'autre, de bouffer la priorité, ni la préséance à un président, à un aîné. C'est vraiment pas dans mes pratiques. Certainement que j'ai vu ces gens-là évoluer et ça m'a laissé des souvenirs intarissables.
Prendre la suite de ces trois phénomènes que sont Césaire, Aliker et Darcière, c'est pas facile. Est-ce que le PPM a trouvé les bons hommes, les bonnes femmes, les bonnes personnes pour succéder à ces trois-là ?
C'est pas quelque chose de facile parce que être le gardien de tel temple, c'est quelque chose de pas facile du tout parce que ça demande énormément de travail, énormément de mobilisation. La politique a changé. On n'a pas les mêmes niveaux de militantisme, c'est-à-dire que l'élu, celui qui est au front, est souvent obligé de monter au front lui-même parce que Césaire, Aliker, Darcière avaient cette armée de militants, parce qu'on était beaucoup plus militants à l'époque, hein, dans tous les milieux associatifs, culturels, sportifs, etc. On était très militants, on faisait beaucoup de choses de manière bénévole, parce qu'on était impliqués dans un pays, et il manquait de tout, donc la revendication habitait tout le monde et on se mobilisait. Aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu, donc c'est pas évident d'être à la fois dans cette quête quête de la vérité, de la profondeur des valeurs, et en même temps être au front. C'est pas évident, ni dans une autre ère, dans un autre moment. Mais j'ai envie de dire, ils nous ont laissé un tel héritage. Ils ont tout écrit. Ils ont tout dit. Moi, je relis aujourd'hui les textes que Édouard de Lépine a compilés dans 5 volumes. Il n'y a plus rien à dire. Autrement dit, il a tout écrit, il est allé au fond de tout, il ne nous reste qu'à mettre en œuvre. À mettre en œuvre, en adaptant bien sûr à la réalité du 21e siècle, mais il nous reste à mettre en œuvre. On n'a pas réinventé des concepts, on n'a pas reposé la question de certaines valeurs. Césaire a été dans la projection, dans l'avant-gardisme. Eh bien, allons-y, on fait.
On fait une pause musicale, Catherine ?
Avec plaisir.
Je te laisse le choix du titre.
Le choix du titre, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre Max Rancé, Cœur d'un homme en lambeaux. Je trouve cette chanson très belle.
Et on ne l'écoute pas souvent, c'est dommage. Ouais.
Finette la grand ouvert, l'ennui ça qu'a rentré. Il y a trop grand pour moi seul, l'homme est moins caché chez où. La brise a tombé, qu'a glissé dans chez moi. Chaque coup c'est un poignard, qui qu'a poignard des moins. Cœur d'un homme en lambeaux, qui a donné son âme. Corps d'un homme s'étiole, se consume d'amour. Cœur d'une femme en fuite, qui a tissé sa trame. Corps d'une femme sans suite s'efface dans le jour. Cœur d'un homme en lambeaux, qui a donné son âme. Corps d'un homme s'étiole, se consume d'amour. Cœur d'une femme en lambeaux, qui a vendu son âme. Corps d'un homme s'étiole, loin de son amour. En moi ou parti, pas réfléchi à rien. Dit mon la cage mis, ça pas servi ou à rien. Moi pas qu'à souhaiter au mal, mais faut qu'on sache qu'un jour, bon Dieu qui rime tout, tout ça ou fait qui mal. Cœur d'un homme en lambeaux, qui a donné son âme. Corps d'un homme s'étire, se consume d'amour. Cœur d'une femme en fuite, qui a tissé sa trame. Corps d'une femme sans suite s'efface dans le jour. Cœur d'un homme en lambeaux, qui a donné son âme. Corps d'un homme s'étire, se consume d'amour. Cœur d'une femme en lambeaux, qui a vendu son âme. Corps d'un homme s'étiole, loin de son amour. Son âme, corps d'un homme s'étiole, se consume d'amour. Cœur d'une femme en fuite, qui a tissé sa trame. Corps d'une femme sans suite s'efface dans le jour. Cœur d'un homme en lambeaux, qui a donné son âme. Corps d'un homme s'étiole, se consume d'amour. Cœur d'une femme en lambeaux, qui a vendu son âme. Corps d'un homme qui s'étiole, loin de son amour.
Vous êtes dans Salon Privé. Nous avons ce soir le plaisir de recevoir Madame Catherine Conconne, sénatrice de Martinique. Elle occupe ce soir notre grand canapé noir.
Très confortable.
Moi, je l'y trouve très à l'aise.
Ça fait une pause.
Catherine, dis-moi, être sénatrice, c'est pas une sinécure.
C'est du boulot. C'est beaucoup de travail. C'est un travail qui à la fois se déroule à la Martinique, mais aussi en France. On est toujours entre deux avions, mais ça pas simplement pour voyager. On est entre deux avions parce qu'il y a une expression de la démocratie qui se fait en un lieu. Il faut être présent, il faut débattre, se mobiliser. Mais moi, je tiens beaucoup à cette présence à la Martinique parce que c'est le terrain qui alimente. C'est la rencontre avec les gens qui alimentent. On n'est pas des élus offshore, complètement en orbite, et puis on regarde les choses de
alors
loin.
Alors j'entends des gilets jaunes qui disent qu'il faut supprimer le Sénat. Qu'est-ce que tu en penses?
Parce qu'ils ne connaissent pas le Sénat. C'est vrai que le Sénat, malheureusement, ne bénéficie pas d'une belle image. Et souvent, je dis à mes collègues, mais il faut qu'on communique autrement. Non, le Sénat est considéré. Jusqu'à présent, je discutais encore avec des amis, on consomme midi à table, où je leur disais, mais vous vous trompez. Le Sénat est considéré comme un truc qu'on donne aux gens en fin de carrière, où il n'y a que des vieux, des personnes très âgées qui viennent là pour se reposer après une vie politique active. Non. À un moment donné, j'y ai cru en me disant peut-être qu'après tant d'activités pendant près de 20 ans, ça va peut-être me faire un petit moment de répit. Non, on travaille énormément. Je rappelle aux gens qu'il n'y a aucune grande démocratie qui ne soit bien organisée si elle ne compte pas deux chambres au sein de son Parlement. Regardez toutes les démocraties, vous avez toujours deux chambres. Et le Sénat fait un travail de contrôle du gouvernement permanent. Le Sénat fait un travail de relecture au fond des lois. Le Sénat fait un travail très au fond, beaucoup moins dans l'agitation que l'on connaît de l'Assemblée nationale. Il y a de vrais rapports qui sont produits, il y a de vraies auditions. Il y a un boulot monstre qui est fait. Et je peux vous dire que le Sénat, très souvent, revisite, règle et revient sur un certain nombre de dispositions parce qu'on a eu le temps d'aller au fond, on a eu le temps de voir venir, on vient en second le plus souvent quand les lois sont exécutées, donc on a le temps de voir pendant qu'ils sont en train de voter. Nous, on est en train de travailler sur les détails de la loi et souvent, beaucoup de lois sont réécrites par le Sénat, précisées par le Sénat, amendées par le Sénat. C'est une chambre qui a toute sa légitimité, qui n'est pas un vieux placard à balai où on met les élus en fin de carrière. J'y serais pas restée si c'était le cas, parce que je n'aime pas être dans des instances où je ne sers à rien, un peu comme c'est le cas à la CTM. Là, non, on est très, très investi. Et moi, souvent, j'arrive au Sénat à 9h du matin, je repars à 1h du matin en ayant travaillé toute la journée et en me disant, et dire que je pensais que c'était un petit coin tranquille où j'allais me reposer enfin.
Est-ce que les sénateurs des Outre-mer sont écoutés, sont entendus? Est-ce que vous avez la même force que les sénateurs de métropole?
Après, c'est votre engagement et votre détermination qui fait le travail. Aujourd'hui, nous sommes 75, par exemple, dans le groupe socialiste. J'ai réussi à rediriger le projecteur autrement sur nos pays. Parce que je monte sur toutes les lois. Toutes les lois. Il y a très peu de lois qui ne nous concernent pas directement. Bon, bientôt, il y aura une loi sur la distribution du gaz de ville. Bon, on n'a pas de gaz de ville en Martinique, donc je vais écouter et peut-être participer, mais sans plus. Tandis que beaucoup de lois, pour ne pas dire 95% des lois, nous impactent directement. Donc, en quelque part, vous avez une ligne qui peut faire basculer le sort de professionnels, le sort de Martiniquais, de citoyens martiniquais, si on n'est pas attentif, si on n'est pas en réaction et si on n'est pas en détermination. C'est toute la journée qu'il y a des petites virgules, des choses qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Et aujourd'hui, par ma détermination, ma façon de faire, mon implication, mon sérieux, eh bien aujourd'hui, j'ai des collègues qui commencent à nous regarder autrement. Ou qui disent, attention, Catherine est là, on parle de l'outre-mer, il faut lui demander son avis. Attention, elle aura des choses à dire sur la Martinique. Il m'arrive même d'avoir des moments durs. Hein. J'ai eu un collègue dernièrement, quand il s'est agi de parler du Rhum, malgré c'est un collègue de mon groupe, on a eu une explication un peu vive, parce qu'il disait des choses. Je lui disais, mais pourquoi tu parles de la Martinique comme ça? Tu n'y es jamais allé. Mais laisse-moi parler de la Martinique comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Tu es en train de dire des choses qui sont fausses. Pourtant, c'était quelqu'un de mon groupe. Et on a eu une explication très vive où même le président de groupe a dû venir nous arbitrer, lui demander de se calmer, de me laisser la main sur... Donc, c'est un combat permanent. C'est un combat dans lequel on doit s'impliquer, où on doit nous faire reconnaître en tant que pays. Et pas simplement un petit truc qui est perdu dans l'Atlantique. Ah oui, chez toi, ou alors Catherine, chez toi, on danse. Non. L'aspect doudou, ils seront paniqués, il y a le Francky Vincent, qui résume la Martinique, c'est pas du tout avec moi. Donc je reviens en permanence, réaffirmer qui nous sommes, dire que nous sommes des pays, nous sommes un peuple, que nous avons nos pratiques, nous sommes français, certes. Mais je ne suis pas une bretonne, je ne suis pas une normande, je ne suis pas une marseillaise, je suis une martiniquaise. Avec tout ce que ça comporte comme élément de culture, comme élément de partage de peuple qui a eu cette histoire-là et pas une autre. On a cette histoire-là et pas une autre. Et ça impacte au quotidien notre manière d'être, notre manière de parler. Les nous fâchés, yoka wessa, les nous contents, yoka wessa. On a notre manière d'être, de parler, de danser, de s'exprimer. Il y a des choses qui nous parlent, des choses qui nous parlent moins. Et bien, régulièrement, je fais mes collègues revenir sur des conceptions et ça plaît. Aujourd'hui, ils veulent tous venir à la Martinique. J'ai même un collègue qui vient de passer 15 jours à la Martinique, qui a été tellement ébloui, qui est revenu de ses a priori et de ses préjugés, qui m'a dit, mais c'est pas possible, vous avez un super réseau routier, je suis allé voir votre hôpital, peut-être que vous comprenez, vous avez trouvé nous, qui vivent dans Bangkokoché, moi, ça. Donc, ils comprennent, et le prochain voyage de mon groupe socialiste se fera à la Martinique. Là, je vais, pendant 5 jours, leur mettre un calendrier extrêmement dense pour qu'ils voient nos pays autrement, qu'ils comprennent que quand, de temps en temps, je monte au créneau et que, par moments, avec colère, j'exprime mon refus de certains nombres de choses, eh bien, qu'ils puissent comprendre. Mais aujourd'hui, leur regard change. Là, et c'est un vrai combat parce qu'on a tendance à croire qu'on est un petit bout dans l'Atlantique et puis voilà. Quoi.
Les problèmes de chlordécone, ça leur parle ?
Les problèmes de chlordécone leur parlent énormément. Il y a une grosse sensibilité au Sénat. J'ai une collègue sénatrice, Nicole Bonnefoy, que j'ai accompagnée dans une loi qu'elle a portée, qui a été votée à l'unanimité en plus, et qui va permettre bientôt l'indemnisation des professionnels, enfin des gens qui travaillent dans les produits phytosanitaires, y compris chlordécone, et qui pourront être reconnus comme maladies professionnelles. Toutes les personnes qui font de l'épandage à la main, avant il n'y avait pas les précautions d'aujourd'hui, qui aujourd'hui on se retrouve parfois avec des maladies que l'on peut faire mettre au titre de maladies professionnelles. Et bien aujourd'hui, j'étais très présente aux côtés de ma collègue. Ils connaissent bien les problèmes du chlordécone. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, je trouve un niveau très élevé au Sénat, des élus qui travaillent énormément, qui sont pointus sur leur dossier. Et quand ils ouvrent leur micro, ce n'est pas pour dire des sottises ou des banalités. Hein. Ils arrivent avec très balèze sur des sujets importants et ça a été pour moi un vrai plaisir de travailler avec Nicole, d'écouter ses retours, d'y ajouter la notion chlordécone au titre des produits phytosanitaires. Et on a de plus en plus un gros soutien des élus. J'ai même des collègues aujourd'hui qui prennent le micro et qui montent au créneau pour nos pays. Dernièrement, il y en a un qui a fait une colère pas possible en disant, mais monsieur le ministre, dès qu'on vous parle de l'outre-mer, vous dites que ça va coûter cher. Mais ça suffit! Il s'est complètement fâché, c'est un homme du Sud. Très très chaleureux, qui connaît la Martinique, qui a d'ailleurs fait son service militaire ici, et il s'est fâché avec le ministre, si bien qu'il a été repéré par un journaliste martiniquais qui l'a fait intervenir sur la radio le lendemain. J'ai conclu en disant c'est encore mieux quand c'est pas dit par nous, mais on a ce regard qui est en train de changer, cette manière de faire. Je parle beaucoup d'Aimé Césaire, je le cite énormément quand je m'exprime. J'ai même organisé en juin dernier une conférence autour de l'œuvre d'Aimé Césaire. Il y avait plein de personnes, et pas seulement des gens de l'outre-mer, qui ont été présents. Donc, il faut être droit dans ses bottes, rigoureux, déterminé, sérieux, et là, on vous reconnaît.
Est-ce que les autres parlementaires de l'outre-mer te suivent dans cette voie-là?
Absolument. Il y a, parmi les collègues, il y a Maurice Antis qui est martiniquais, pareil, on travaille très bien ensemble. Il y a Victorin Lurel qui est un habitué de la chose politique. Il a été ministre, il a été député. On co-signe souvent des documents ensemble. On a nos petites complicités qu'on organise sur certains votes et tout. On demande parfois des interruptions de séance. D'accord, on vote. D'accord, on ne vote pas parce que ça nous concerne. Notre sénatrice de Guadeloupe, Guadeloupe, et puis les Réunionnais aussi, qui sont très, très au combat. Les Guyanais, Patient et Karam, qui... même chose. Hein. Non, non, il y a une bonne coordination entre nous, et ça se passe bien. Ça se passe bien.
Et c'est l'heure de notre deuxième pause musicale. Le choix ?
Eh bien, on va essayer Kassav avec un morceau que j'aime bien aussi, qui est chanté par Jean-Claude Nemo. L'ennui de ma kawewa d'un rêve moins.
Chagrin, qu'a fond ciel tête moins, mais là j'arrive, faudrait moins partir, pas désespérer, pas décourager. Si vous plairez ou ça, j'aime moins peine même racher. Ça des fois plus raide, garde bateau, qui que mène moins, l'autre côté l'homme, en te kevle, tu des petits moments de tresse, quand j'en ai scellé, moi peux pas parler.
Soir sur Fusion. Salon privé.
C'est Catherine Conconne que nous recevons ce soir dans Salon privé. Catherine Conconne, qui est sénatrice de Martinique et qui a accepté notre invitation. Quel est ton principal combat au Sénat aujourd'hui ? Chlordécone, cannabis, je sais que tu es sur plein de fronts.
Je suis sur plein de fronts. Encore une fois, j'essaie de monter sur toutes les lois, de trouver, exprimer notre particularité martiniquaise et de l'outre-mer de manière plus générale. Mais je parle beaucoup de la Martinique. Je laisse les autres collègues parler de leur territoire parce que je me bats beaucoup contre cette notion de vrac qu'on appelle l'outre-mer. Mon principal combat transversal, en fait, est de nous faire reconnaître. Autrement dit, d'arrêter cette vision qu'on a de nous, le pays où on va bronzer, etc., où on danse le zouk et puis ça s'arrête là. Non, il faut que les gens considèrent et reconnaissent que nous sommes des pays particuliers, avec une histoire particulière, et il faut que ça s'intègre dans les têtes. Qu'on ait cette notion d'égalité dans le regard, dans la considération. C'est ça mon combat transversal. Et au milieu de ça, eh bien, en fonction de cette connaissance que j'ai du terrain, de cette connaissance que je n'arrête pas d'acquérir, parce qu'on ne sait jamais tout, j'auditionne beaucoup de gens lorsqu'il y a des sujets qui arrivent pour me faire mon idée, préciser ma pensée. Eh bien, je cherche toujours cette plus-value et ce progrès pour mon pays.
Je sais que tu as fait une intervention auprès du ministère de la Culture pour la promotion de nos artistes.
Absolument.
Où ça en est?
Alors, j'ai eu beaucoup d'interventions avec la ministre qui était là avant. Malheureusement, elle est partie. Donc, j'ai un nouveau rendez-vous qui est avec un autre, le nouveau ministre, Franck Riester, que j'ai eu l'occasion déjà de croiser pour qu'on parle de la suite de France O et de la visibilité de nos pays dans le paysage audiovisuel français de manière générale, sur le réseau France Télévisions en particulier. Si on est la France, eh bien, il faut qu'on ait de la visibilité, hein, sinon on finit plus ça. Donc, j'ai même écrit, parce que j'estime qu'on doit aussi poser la pensée. Nous, on ne va pas aller en pile, hein, Martinique, mais bon, mais il faut s'asseoir, il faut rédiger, il faut laisser des traces, il faut donner des documents qui permettent aux gens de se souvenir qu'on avait écrit ça et qui permettent le débat. Mais j'ai écrit 21 propositions pour faire de la Martinique un hotspot culturel et patrimonial. J'ai décliné 21 projets. Et parmi ces projets, je souhaite qu'il y ait un statut particulier pour l'artiste en Martinique. Pas un statut parce qu'on ne peut pas faire évoluer le milieu culturel et artistique dans un marché aussi contraint. Lorsqu'on s'adresse à 370 000 personnes, c'est pas quand on s'adresse à 37 millions de personnes. Donc comment voulez-vous qu'un artiste puisse décemment vivre de son art en Martinique, dans quel que soit le secteur, qu'il soit musicien, théâtre, écriture, littéraire, peinture, on est dans un petit marché. Comment faire pour protéger cette créativité en donnant des chances à cet artiste de vivre mieux? C'est-à-dire de ne pas avoir de telles charges sociales, de ne pas avoir de telles charges fiscales, parce que tout ça obère la créativité. Et on est un pays de créativité. Moi, je rêve du moment où des artistes pourront produire de la musique en permanence sans se dire qu'il faut faire des déclarations, payer des charges sociales. Je rêve du moment où des hôtels feront appel à des orchestres, à des peintres, etc., pour égayer un peu leur ambiance, sans que l'hôtel se dise « l'orchestre va me coûter 3 000 €, mais il faut que je paye aussi 3 000 euros de charges ». Non, dans un pays contraint comme le nôtre, il faut faire baisser la pression, et je préfère qu'un artiste vive de son art sans qu'il ait à être taxé autant comme il l'est aujourd'hui, y compris l'acheteur d'art, mais également, il vaut mieux ça qu'il soit au RSA. Parce que quand on a fait un spectacle à la Martinique, quand on a fait un concert à la Martinique, on ne va pas en faire 10. Parce qu'on a quasiment vu tout le monde. On est 370 000 avec une population qui vieillit, de plus en plus de personnes de plus de 60 ans, autrement dit retraitées et pas avec les mêmes revenus. Comment voulez-vous vous adresser à un public comme ça et faire comparer à un orchestre qui va jouer en France ? Ou un peintre qui va produire en Martinique.
Alors, tu l'as entendu ?
Alors, c'est un travail qu'on a commencé, comme je t'ai dit. Donc, j'avais commencé à en discuter avec l'ancienne ministre, qui n'était pas du tout fermée à ça. Mais là, je vais rentrer dans quelque chose de plus pointu, là, dès le mois de février. Mon collègue qui est venu en Martinique m'a dit, j'ai bien compris ce qu'il vous faut, j'ai beaucoup discuté avec lui, je suis allée partout sur le terrain, lui expliquer le rhum, la canne, tout ce qu'on avait comme production et tout ce qu'on aurait pu avoir comme production. Et on a longuement travaillé sur une proposition qu'on va essayer de faire au président de la République pour la prochaine loi de finances, essayer de trouver un statut fiscal pour la Martinique qui fonctionne mieux que ce que c'est aujourd'hui. À quoi bon taxer autant les gens dans un pays qui vieillit, dont la population diminue? Donc, il faut libérer les initiatives. Il faut redonner de l'attractivité au pays. Alors, peut-être pas une défiscalisation telle qu'on l'a vécue à une époque où c'est assez connoté, on pense qu'il y a de l'abus, etc. On n'a peut-être pas besoin de défiscalisation pour faire de la promotion immobilière aujourd'hui, mais on a besoin d'une fiscalité ramenée à zéro ou presque, dans des secteurs de la production, pourquoi pas de la production culturelle, de la production tout court, en agroalimentaire, etc., où il faut alléger la fiscalité. Alors, je vois mon collègue à mon retour là en février, et on va mettre en place un groupe de travail. On va avoir un chargé de mission qu'on va recruter en commun sur nos crédits collaborateurs pour travailler pendant 6 mois à une formule, et on sera en anticipation. On ne va pas attendre que la loi de finances arrive dès le mois d'octobre. Non, dès le mois de juin, on ira au niveau de la présidence et du ministère des Finances pour dire attention. Il y a des pays là qui sont en péril, qui ont une démographie à la baisse, qui manquent d'attractivité parce que les conditions fiscales sont certainement pas attractives. Revoyons les choses, libérons l'initiative. Libérons. Il y a 30% de foyers qui payent l'impôt ici. C'est pas des milliards qu'on collecte. Si on peut réduire ça et permettre à ces mêmes personnes d'être des contributeurs à une production, si on peut libérer le monde artistique de charges et tout. Mais c'est peanuts dans le budget de la nation. C'est rien du tout. Mais pour nous, c'est énorme. Pour nous, c'est énorme. Et moi, je rêve de voir que le milieu culturel ici soit mieux considéré et ait d'autres moyens d'exister. Je rêve de troupes de théâtre professionnelles, de troupes de danse professionnelles. Je rêve de musiciens qui vivent de leur art en permanence et qui ne sont pas en train de gratter leur tête pour savoir, bon, est-ce qu'on a fait un disque, est-ce qu'on n'a pas fait. Non. On a des initiatives et une créativité à libérer ici. Chaque Martiniquais porte en lui des dons extraordinaires. Eh bien, il faut libérer ça. Il faut leur donner les moyens de travailler sans mettre la chape de plomb administrative sur leur tête en permanence.
Avez-vous eu envie d'être maire de Fort-de-France?
Alors, en fait, je joue collectif. J'avoue que je joue collectif et je ne suis jamais dans des ambitions personnelles. Autrement dit, je ne suis pas là 2 ans avant à dire « Ah, ça c'est mon objectif et je vais travailler pour ça ». Je joue collectif, je me dis qu'il y a un moment où dans le parti auquel j'appartiens, il y aura des choix qui vont faire qu'on va mettre « the right man at the right place ». Il faut ça. Quand le moment de la mairie est arrivé, on était en 2014, j'étais première vice-présidente de la région, 1 an avant les élections. Je portais d'énormes dossiers sur les filières de production et tout, qui ont donné leur fruits, je terminais le plan de relance économique, etc. Et je me suis dit, si j'arrête ça pour aller à la mairie, 1 an avant les élections, ça va être compliqué. Bon, ça va être très compliqué. J'étais première vice-présidente. Serge Etchimi m'avait demandé d'être sa première vice-présidente parce qu'il est député, il devait se déplacer énormément et il me laissait la maison toute confiance. Il avait besoin de cette confiance-là. Il n'avait aucun risque. Je tenais la maison très bien en me disant est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas. Mais c'est vrai que la mairie de Fort-de-France aurait été pour moi un champ d'exploration et de travail formidable. Je me serais bien éclatée. J'aime bien ce niveau de responsabilité politique, encore plus que... Je dis à des gens, vous savez, j'aurais préféré être à la mairie qu'être au Sénat. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils me disent, ah oui, mais le Sénat, parce qu'ils voient le côté un peu tapis rouge. Mais franchement, ce ne sont pas des choses qui m'éblouissent. J'aime mon pays, j'aime beaucoup mon pays. Et si je peux être... dans le fond doc de l'exercice pour permettre de travailler à l'amélioration, au progrès. Franchement, j'aime bien le niveau local.
Que pouvez-vous répondre à ceux qui vous accusent, vous et Camille Chauvet, d'avoir fait perdre ensemble pour une Martinique nouvelle les élections à la CTM?
Oui, on a dit ça. Vous savez, tu sais, lorsqu'il y a une défaite, on cherche toujours un bouc émissaire. Je ne sais pas, je ne vois pas en quoi on aurait pu faire des élections.
J'ai posé la question à Camille, il était assis à ta place.
Oui,
il a ri. Et il en a ri.
Bien sûr. Serge Etchimi avait besoin de personnes pour le protéger, hein, comme nous le faisions, parce que ce n'est pas tous les élus qui ont parfois le courage de monter au créneau, de prendre les coups toute la journée, de le défendre et tout. En quoi on aurait péché pour nous permettre? Non, pas du tout, non. Dès qu'il y a défaite, il faut trouver un bouc émissaire. Vous voyez, aujourd'hui, Monaco ne gagne pas, on a suspendu Thierry Henry. Il faut trouver, c'est peut-être les joueurs qui ne sont pas bons, tout simplement, mais bon, il faut bien trouver quelqu'un accusé. Non, on a fait un travail formidable à la région. Bon, il faut de temps en temps s'asseoir autour d'une table et puis regarder qu'est-ce qui a péché. Moi, j'ai quelques réponses. qui ne relève pas de l'accusation de tel ou tel, individu.
Dis-moi deux.
On a très mal communiqué. Je trouve qu'on a très, très mal communiqué sur les 5 années que nous avons passées à la région. On a fait un travail formidable, vraiment extraordinaire. On a inversé des tendances, cassé des codes, on était dans un dynamisme extraordinaire, si bien que tout le monde vient nous dire aujourd'hui qu'on nous regrette et qu'il faudrait revenir au plus vite. On l'a mal vendu. On l'a mal vendu, on l'a certainement très mal expliqué, on a beaucoup fait. Alors peut-être qu'il y avait trop de réformes qui s'accumulaient, on n'avait pas le temps de digérer, que ça repartait. Donc on était un peu comme Macron en ce moment qui a accumulé les réformes et pas le temps de les expliquer. Donc il a appuyé sur pause là et puis il revient, il est dans des débats, il explique aux gens en tête à tête. On a fait un travail extraordinaire. Je ne crois pas qu'en 5 ans, il y ait une collectivité qui ait fait autant que nous ayons fait. Vraiment, hein, en termes de production, de suivi des filières, de BTP, terminer le TCSP, tous ces éléments-là. Mais on ne l'a pas assez expliqué et pas assez directement auprès des gens. Il nous a manqué des réunions, on manquait de temps, trop le nez dans le guidon pour retourner vers le peuple, expliquer. Et puis face à nous, on est allé aux élections de manière très candide, très heureuse, en disant on y va.
Vous étiez sûr de vous ?
On était sûr de nous parce qu'on avait, bien fait. D'ailleurs, on est sorti largement en tête au premier tour. Hein. C'est une des raisons de la défaite, une alliance bizarre entre un indépendantiste et un super franco-français, très, très départementaliste. Et quand on regarde le résultat du deuxième tour, c'est l'addition des deux, hein, tout simplement. Chacun serait resté avec sa liste, il n'aurait pas été élu.
Alors, voilà. Une troisième question, un
pas
peu
de
taquine.
Problème, pas de problème.
Le PP, excuse-moi, le MIM, c'est un parti indépendantiste ou
non,
pas ?
Non, non, je ne crois pas. Dans le MIM, l'expression de ce qui se fait de pire en populisme. Moi, je le dis avec beaucoup de détachement, je le dis avec beaucoup de lucidité, je le dis depuis des décennies, donc je n'ai aucun problème à le redire. On dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, on porte de fausses réponses aux vraies questions, on a la théâtralisation de la politique, on cultive le mensonge et la malhonnêteté intellectuelle. Et quand ça tombe dans des gens qu'on sait flatter, qu'on sait caresser dans le bon sens, ben ça fait des voix.
Voilà. La gouvernance, ça, c'était...
Un désastre. Un désastre. Je l'ai écrit déjà, je l'ai dit. Nous avons tenu des réunions dessus. C'est un désastre. Autrement dit, la capture de la démocratie par un individu, un conseil exécutif. Aucune instance ne fonctionne, aucune commission ne fonctionne. On vous fait venir en plénière simplement pour dire oui monsieur, votez des choses qui sont déjà réglées, qui sont déjà votées. Un conseil exécutif qui a accaparé toute la démocratie. Un conseil exécutif qui se réunit, je crois, chaque semaine, je dis je crois, puisqu'on n'a ni agenda, ni emploi de temps, on ne sait pas. 9 personnes du même parti qui dirigent la Martinique au quotidien. Même les élus qui sont élus dans cette assemblée n'ont même pas de compte-rendu de ce qui se fait dans cette assemblée. On ne sait pas. Aujourd'hui, si quelqu'un m'aborde en me disant « Vous êtes à la CTM, j'ai déposé un dossier, est-ce que vous pouvez voir pour moi ?» Je n'ai aucun moyen de voir. Je ne peux questionner personne. Il y a une omerta installée, une forme de terrorisme installé où les gens ont peur de parler aux élus, ont peur de
La relation s'exprimer. Entre l'exécutif et l'assemblée.
Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et je trouve Claude Lise bien courageux de rester là. Il y a longtemps que je serais parti. Elle n'existe pas. Il y a aucun. Alors que les deux instances sont normalement au même niveau, il n'y a pas de prépondérance de l'un sur l'autre. Eh bien, aujourd'hui, l'Assemblée, c'est une simple chambre d'enregistrement et on commence à voir des petites révoltes qui se font. Je vois de plus en plus Claude Lise se fâcher, demander de le respecter, etc. Non, il n'y a aucune relation. La Martinique est gouvernée en mode 59+1 par une personne plénipotentiaire. Tout passe par lui, tout doit passer par lui. Et quel que soit l'accord qui doit se faire sur un dossier, s'il ne dit pas oui, ça ne se fait pas. Voilà. C'est une réalité, je la vis, je la déplore. J'ai décidé de ne plus en parler. Bon, j'en parle parce que tu m'as posé la question. J'ai décidé de ne plus en parler en me disant laissez rouler. Parce que lorsqu'on essaye d'expliquer...
Vous préparez la suite.
Oui, quand on essaye d'expliquer aux gens, vous entendez les gens. Alors que vous vous battez pour eux, hein, pour une meilleure expression de leurs droits et tout, ils vous disent, ah, les politiciens, c'est le café cancan, machin. Bon, on n'a pas assez de lucidité, voire de maturité politique pour comprendre un certain nombre de choses. Donc j'ai renoncé. J'y vais quand je peux. Je parle de moins en moins, je ne suis pas dupe, je vois se dérouler cette mauvaise pièce de théâtre, et puis en me disant, bon, je dis qu'on s'adamait différemment.
Les orientations budgétaires, vous...
Non, c'est, non. Pas, c'est quelque chose de sans ambition, rien du tout, un copier-coller de ce qu'on fait depuis 3 ans, on change simplement les années, beaucoup d'expressions de portes ouvertes. Non, c'est pas comme ça que l'on doit envisager ni voir un pays comme la Martinique avec de tels enjeux, de telles difficultés et des perspectives à écrire parce qu'on n'est pas au meilleur de notre forme. Hier, j'étais encore à l'IEDOM, je suis passée récupérer le bulletin trimestriel, très 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 préoccupant, une commande publique en chute libre, des communes en difficulté, bon... C'est pourquoi qu'on ça.
On fait un peu de musique.
Un peu de musique, pourquoi pas.
Tu sais que c'est toi qui mène la...
C'est moi qui mène la danse.
La danse. Bon, je t'écoute.
Qu'est-ce qu'on va choisir? Moi, j'aime beaucoup la musique martiniquaise elle-même.
Hein. Ben oui.
L'expression de notre musique qui est formidable, qui est magnifique. On va choisir quoi? On va choisir « C'est pas maigre ». Voilà. Il y a eu beaucoup d'interprétations de ces parents maigres. Je te les choisis.
D'accord. Merci.